Merci aussi à toute l'équipe pour ces beaux chants de louanges qui sont en eux-mêmes, je dirais quelque part, une prédication. Ce matin, à la première réunion qu'on a eue, quelqu'un a fait le lien avec le mariage qui a eu lieu hier de Jonathan et Marie-Pierre. Et vous savez, Jonathan et Marie-Pierre nous quittent, bien entendu, pour la région de Baie-Comeau. Mais on est heureux de voir qu'à l'occasion, on a des gens de Baie-Comeau qui descendent. Donc, bonjour Vianney, bonjour Lise, c'est toujours agréable de vous avoir parmi nous. Et les autres qui nous visitent aussi, que j'ai pas eu l'occasion de saluer, ben sachez que vous êtes les bienvenus, je dois s'en dire. Donc, ce matin, j'ai, en pensant tout à l'heure, quand j'ai jasé un peu avec Paul Bourassa, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais supposons que vous allez dans un restaurant. Et que là, vous arrivez au restaurant, puis qu'il y a une file de monde qui attend. Puis là, tu entends la madame dire, il y en a pour une heure et demie d'attente. Et toi, tu passes à côté de tout ce monde-là, et tu arrives en avant, tu donnes ton nom, et venez vous asseoir. Pourquoi? Pas parce que ce qui je suis, là, ça n'a rien à voir, là. Parce que j'ai réservé. Si vous vous en allez en voyage, puis que vous avez pris la peine de réserver aussi, c'est toujours agréable, là, de savoir qu'effectivement, ça nous assure quelque chose. Et d'ailleurs, le dictionnaire, dans la définition qu'il nous donne de réserver, nous dit, c'est garder quelque chose pour l'avenir, mettre de côté pour quelqu'un, ou encore qui a été attribué, pardon, à quelqu'un exclusivement. Ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est qu'on fasse, je dis « on » parce que ça m'implique, bien entendu, moi-même, mais que chacun d'entre nous, ce matin, on puisse avoir un temps de réflexion. Un temps là, de prise de conscience relativement à quatre affirmations qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui concernent des choses qui sont réservées. Et ce que j'aimerais qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'elles sont réservées pour moi? Et ce matin, j'ai la prétention, quelque chose. Là. Des fois, tu apportes une prédication puis tu te dis qui ça va toucher dans la salle? Bien, moi, j'ai la prétention ce soir de dire qu'il n'y a personne ce matin, ici dans la salle, que ça ne concerne pas ces points-là. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, j'ai cette infime conviction-là que ça vous concerne et ça me concerne. Et j'aimerais qu'on regarde ces choses-là qui sont réservées aussi dans une optique de démarche spirituelle. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu le goût d'en apprendre plus sur Dieu. Vous avez eu le goût peut-être d'ouvrir sa parole. Et dans toute démarche spirituelle, il y a le point de départ et l'aboutissement. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ces choses-là dans un processus, je dirais, normal, qui devrait se passer dans votre vie. Ça va? Et ces quatre points qui nous concernent personnellement, j'en suis convaincu. Si je vous posais la question, qu'est-ce qui arrive au Canada une fois à toutes les deux minutes à peu près? Avez-vous une idée qu'est-ce qui arrive au Canada une fois à toutes les deux minutes? Une naissance? Pas tout à fait. Un décès? Toutes les deux minutes. Jeudi dernier, j'étais tout content, Suzanne et moi, on était contents. On se disait, bon, c'est le fun, samedi, il y a le mariage, puis en plus, on va au mariage, puis on va aller manger avec les gens et tout ça. Jeudi dernier, au matin, jeudi après-midi, je reçois un appel. Il y a un décès dans la famille et les funérailles ont lieu aujourd'hui. Donc, ça a changé bien les plans. Ce qui fait qu'après la prédication, on s'en va. On s'en va à Montréal. Mais, voyez-vous, quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement, et que là, tout à coup, effectivement, une personne est décédée. Selon Statistique Canada, on nous dit qu'en 2013-2014, il y a 256 721 décès qui ont eu lieu. Et bien entendu, ces décès-là, ce ne sont pas tous des décès à cause qu'une personne est rendue à un âge, disons-le, avancé. Toutes causes confondues, à toutes les deux minutes, il y a quelqu'un qui meurt. Et ça nous amène à faire un constat, mais plus qu'un constat ce matin. Parce que la première chose qu'on voit dans la parole de Dieu qui nous est réservée, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, et qui dit que « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » C'est la première chose que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin, c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Samedi dernier, le 1er août, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu une partie d'émission avec un monsieur qui s'appelle, que vous connaissez sans doute, on le voit assez souvent à la télévision, Bocar Diouf, qui a une émission le samedi matin. Et le thème de l'émission, c'était « La grenouille des bois et l'immortalité ». Parce qu'on part du principe qu'une grenouille des bois est capable de survivre à des températures très froides, elle défie un peu les règles connues pour quand même passer au travers puis continuer à vivre. Et là, tout au long de cette émission-là, on faisait le lien sur à quel point les gens désirent combattre la mort ou, si c'est pas possible, bien la repousser le plus loin possible. Et il y avait des gens qui étaient interviewés, puis là-dedans, on nous parlait de différentes possibilités. Il y a ce qu'on appelle, entre autres, le transhumanisme, où là, à l'aide des technologies qu'on a maintenant, des biotechnologies, des nanotechnologies, on est capable d'aider, ou on va être capable, d'aider à repousser l'échéance le plus possible. Je ne sais pas dans quel état ils vont être, les gens, mais on repousse l'échéance. Et il y avait une personne qui a été interviewée qui représentait une compagnie, elle, ou qui fait de la cryogénisation. Wow! Ça veut dire que l'espoir qu'on place dans la cryogénisation, c'est qu'on veut faire de vous une petite grenouille. Bien, pas une grenouille, mais on veut faire un peu le même principe. C'est qu'on va vous congeler à moins 196 degrés, puis à un moment donné, ben, si la science s'est évoluée, on va vous dégeler. Puis on espère que ça va marcher. Mais c'est quand même sérieux, parce que ça coûte des milliers de dollars, puis au Québec, il y a des compagnies funéraires maintenant qui ont commencé à offrir ce service-là en plus des autres. Il y a même au-dessus de 200 personnes au Canada présentement qui ont signé des papiers par rapport à ça. Et même, il y a des endroits où, si vous avez un bracelet d'une certaine couleur, ça veut dire aux ambulanciers, « Je veux être cryogénisé. Rapidement, mettez-moi de la glace autour de la tête. » Parce que c'est important, la tête, quand même. Pour après ça, me permettre, et même dans les cas que les décès viennent de survenir, viennent tout juste, c'est ce qu'on va faire. Voyez-vous l'importance pour des gens de combattre et de repousser la mort? Parce que elle est présente, cette mort-là. Et comme je vous ai dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et quand même qu'on repousserait, quand même qu'on serait congelé, savez une chose, ça ne règle rien au niveau spirituel. Parce que pour Dieu, vous n'êtes pas juste un paquet de cellules. Parce que pour Dieu, vous avez un corps, une âme et un esprit. Et ça, ça ne se congèle pas de même. Voyez-vous? Donc, c'est important de réaliser en plus qu'il est bien écrit qu'il est réservé aux hommes, mais de mourir une seule fois. Et ça, ça vient tout de suite mettre un terme, ou du moins à une réflexion que des gens pourraient avoir relativement à la possibilité de renaître à plusieurs reprises, de se réincarner à différentes reprises pour atteindre un jour l'espèce de félicité éternelle, dépendamment du type de vie que vous allez avoir eu. Beaucoup de gens adhèrent à ça. Mais nous, je tiens à vous dire que ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, il n'y a pas de cycle possible selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais la parole de Dieu va encore plus loin. Elle nous dit aussi la cause fondamentale pour laquelle on meurt. Parce que souvent, les gens vont dire, ben oui, c'est normal, on a des cellules, on vieillit, tout ça, puis on finit par mourir. Oui, mais à l'origine, pourquoi on meurt? Puis Dieu nous donne sa réponse dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 12. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, la cause fondamentale que Dieu nous donne, pour laquelle la première chose qui nous est réservée, c'est de mourir, bien, c'est à cause du péché, tout simplement. Cette désobéissance-là, cette nature-là qu'on a, et qui est héréditaire, qui date du premier homme qui, lui, a péché, Dieu nous dit de sa parole qu'à cause de ça, chacun d'entre nous, vous comme moi, on est avec cette nature-là qui est pécheresse. Et ce qui est terrible avec ça, dans cette première chose qui est réservée, c'est qu'il faut penser que ça ne s'arrête pas là. Parce que souvent, je vais être là après-midi dans un salon funéraire, ou aller dans une pharmacie et prenez les cartes de condoléances. C'est terrible ce qui est écrit là-dedans. Moi, je vois des fois des personnes qui disent ne pas croire en Dieu mais donner des cartes de condoléances qui font des liens vraiment bizarres en tant que tels. Des gens qui pensent que tout s'arrête après la mort, mais qui, quand tu regardes dans les cartes de condoléances, où ils vont parler de la personne qui est décédée, elle va veiller sur nous maintenant. Ah! Il y a quelques semaines, il n'y a plus rien après la mort, maintenant, elle va veiller sur nous. Ou encore, d'autres cartes vont parler que la personne est rendue un ange. Surtout si c'est un enfant, bien, ça devient un petit ange qui va veiller sur nous. Voyez-vous, il y a un paquet d'approches pour nous conforter, pour nous réconforter dans ce que l'on peut croire. Mais pourtant, la parole de Dieu est claire. C'est que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il ne se termine pas là. Parce qu'il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement? Et ça, c'est une proclamation, c'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole, qui nous est réservé de mourir une fois, mais après ça vient le jugement. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas juste une mort physique, il y a aussi la mort spirituelle qu'on a depuis Dieu, depuis le début des temps. Cette séparation-là qu'on a avec Dieu. Et Dieu doit juger, parce que Dieu, dans sa nature, il est saint, la Bible nous dit, il est juste, et il est normal qu'il juge. Et comme on a vu tout à l'heure, comme vous et moi, la parole nous dit qu'on est tous pécheurs, bien, il n'y a seulement qu'un verdict qui peut s'appliquer. Et le verdict, c'est que vous comme moi, on est coupables. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Voyez-vous, ça, c'est la première chose qui nous est réservée de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous vous dites, si ça s'arrête ici, il n'y a pas grand bonne nouvelle pour moi ce matin. Mais heureusement, heureusement, la parole de Dieu nous montre que Dieu n'est pas juste saint et juste, mais il est aussi amour. Et pour ça, pardon, on va voir dans l'Épître de Pierre, où Pierre écrit à des chrétiens qui sont d'origine juive, des chrétiens qui connaissaient tout l'arrière-plan du judaïsme, des chrétiens qui savaient qu'est-ce qui était arrivé tout dans l'histoire d'Israël. Et Pierre va leur rappeler quelque chose qui est bien importante en leur disant ceci dans 1 Pierre 1, 10. Il va dire, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, et ça dit un peu plus loin, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Pierre dit à ces chrétiens-là d'origine juive, « Rappelez-vous, que les prophètes d'avant, alors que la loi était là, que la loi donnait les exigences de Dieu et que personne n'était capable de répondre à ces exigences-là et qu'à cause de ça, quelqu'un devait payer, bien, c'était des animaux qui payaient. C'était des sacrifices qu'on faisait en quantité incroyable à cause des péchés que les gens pouvaient commettre. Mais les prophètes d'alors, eux, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit même de Christ, la parole de Dieu nous dit, ont prophétisé déjà qu'un jour viendrait le sacrifice parfait, qu'un jour viendrait ce Messie qui était à la fois celui qui était pour souffrir, mais qui était pour être glorieux par la suite. Ils ne savaient pas à quel moment exactement que c'était pour arriver, mais ils savaient que ça s'en venait, tout ça. Et ces prophètes-là ont prophétisé concernant la grâce qui était réservée. Plus sur la loi. Maintenant, sous la grâce. Et ça, c'est important parce que pour ces chrétiens-là, au travers de tout ce qu'ils vivaient, ça leur rappelait effectivement que le Seigneur Jésus était venu et qu'à partir du moment où le Seigneur Jésus est venu, plus besoin de se penser sous la loi, d'accomplir tout ce que la loi demandait et d'accomplir tous les sacrifices que la loi demandait. Non, juste la grâce. Et qu'à partir de la venue du Seigneur Jésus, de sa mort sur la croix, sa résurrection, tout ce que les gens ont à faire maintenant, c'est de réaliser que cette grâce-là, elle était réservée en tant que telle. Mais quand on pense à la grâce, on peut se poser la question, oui, mais c'est quoi ça, cette grâce-là? Vous savez, souvent on entend les gens dire, puis c'est vrai, là, que la grâce, c'est une faveur imméritée. Vous avez déjà entendu ça? La grâce, je m'excuse, j'avais oublié de changer, c'est une faveur imméritée. Et c'est vrai, c'est une faveur imméritée. Et je vais vous donner un exemple de cette faveur-là. Savez-vous c'est quoi ça? Un bateau, ça c'est facile la réponse, on va aller un peu plus compliqué. Des galères, exactement. Vous savez, à l'époque des rois de France, principalement sous Louis XIII, Louis XIV, les criminels qui avaient fait des crimes, on va s'en dire, n'étaient pas envoyés nécessairement dans des cachots, dans des prisons. Ils étaient envoyés ce qu'on appelait aux galères. Et quand j'ai regardé ce sujet-là un peu, je peux vous dire une chose, qu'il n'y a pas un prisonnier d'aujourd'hui qui se plaindrait s'il savait comment ça se passait là-dedans. C'était pas beau, c'était vraiment dur. Okay? Et ces criminels-là qui étaient là, il arrivait à l'occasion qu'un diplomate venait dans la région de Toulon, plus précisément, et visitait une galère. Et il y avait un privilège, cette personne-là, ce diplomate-là, c'est de faire libérer une personne. Et voilà donc, j'ai lu l'histoire d'un diplomate comme ça qui s'est promené, puis il a fait le tour des galériens, il leur demandait « Pourquoi t'es ici, toi? » Il n'en revenait pas parce que tous les gens qu'il rencontrait, chacun avait des excuses ou disait que c'était une injustice, qu'il n'avait pas mérité d'être là. Il faisait le tour des gens et c'était tout le temps ça qui arrivait, jusqu'à temps qu'il arrive à un galérien. Puis le galérien lui a dit « Vous savez, j'ai été un criminel endurci, j'ai mérité la mort et maintenant je suis ici. » Wow! Le diplomate, en entendant ça, bien, il s'est reviré vers les gens et il a dit à ce monsieur-là, il dit « Vous êtes donc un misérable au milieu des braves gens? C'est vraiment pas bon pour eux de vous laisser ici. C'est lui que je veux gracier. » Une faveur imméritée. Tout ce que cette criminelle-là a fait, c'est qu'il a reconnu qu'il méritait ce qui lui arrivait et il a été gracié. Et c'est vrai que c'est une faveur imméritée. Mais vous savez, avec Dieu, il faut faire attention de penser que Dieu serait un Dieu qui, à cause qu'il est gracieux, qu'il est bonasse. Ce n'est pas le cas. Dieu offre sa grâce, comme on l'a vu auparavant, mais c'est parce que tout simplement sa justice a aussi été satisfaite à la croix du calvaire. Lorsque Jésus a pris sur cette croix votre place et ma place, lorsque Jésus a subi le jugement que je méritais, que vous méritiez, c'est pour ça que sa grâce peut maintenant être offerte, parce que lui a payé. Donc, c'est encore plus qu'une faveur, je dirais, imméritée. Mais on peut se dire, mais pourquoi Jésus a accepté ça? Pourquoi Jésus a accepté volontairement de marcher, de se rendre jusqu'à la croix et de souffrir autant? Bien, la Bible nous dit que, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Moi, ça, c'est un des versets qui me bouleverse le plus. De savoir que Jésus a accepté tout ça en échange de la joie qui lui était réservée. Voyez-vous encore ce principe de réservation? Ça lui était réservé à lui. Et cette joie-là, c'était de retrouver la gloire qu'il avait auparavant. Mais moi, je suis fortement convaincu que c'est plus que ça aussi. C'est de savoir qu'à cause de son œuvre accomplie à la croix, un jour, tous ceux qui ont mis leur foi dans son sacrifice et dans son sacrifice seul vont être avec lui pour l'éternité. C'est pas merveilleux, ça? Et c'est pour ça que, oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais en même temps, cette grâce-là, elle est réservée aussi, elle était réservée, puis elle est offerte maintenant. Et ce qui est important de faire, c'est de faire un choix. Parce que ce que je viens de dire dans les deux premières choses qui sont réservées se résume un peu sur cette diapo-là, où on voit qu'effectivement, le problème de l'humanité, à la base, c'est le péché. Depuis Adam, comme on a vu. Et que le salaire du péché, bien, c'est la mort. La mort physique, oui, mais aussi la mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu. Mais heureusement, comme Dieu est amour et que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait la vie éternelle, qu'on soit réconcilié avec lui, bien, il a fait le pont. C'est lui qui a pourvu au moyen de nous réconcilier avec lui. Et c'est important pour ça que vous, comme moi, si ce n'est pas fait pour comme moi, parce que je peux vous dire, moi, c'est fait depuis 1985, c'est important d'accepter cette grâce-là. Et ça s'adresse à tous. Parce que la parole, on l'a dit tout à l'heure, tous ont péché. Que vous soyez même un enfant qui est né dans un foyer chrétien, qui connaissait des choses de la parole de Dieu, ben, vous avez exactement la même responsabilité devant Dieu. C'est un jour de confesser que vous êtes perdu et d'accepter ce beau cadeau que Dieu veut vous offrir. Sinon, ben, la parole de Dieu le dit, ce n'est pas de la faute de Dieu. c'est de votre faute. De refuser sa grâce, ben, on demeure toujours du mauvais côté. Et on demeure à ce moment-là séparé de lui pour l'éternité. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui me disent, « Oui, mais Benoît, c'est fait, moi, depuis longtemps. » Bien, tant mieux. Merci, Seigneur. Et je suis convaincu que pour la majorité des gens qui sont ici aujourd'hui, c'est fait depuis un bon bout de temps en tant que tel. Mais il y a d'autres choses aussi que la parole de Dieu nous dit qui est réservée. Vous vous souvenez de la progression dont je vous ai parlé? Mourir, la grâce, maintenant une autre étape. Connaissez-vous ces deux jeunes filles? Non? Moi non plus, je ne les connaissais pas jusqu'à temps que je lise un peu leur histoire qui est arrivée au mois de juillet. Il s'agit de Marlena et Victoria Labose. Labose, je ne sais pas, c'est pas grave. Ce sont deux jeunes filles qui sont les filles de Maurice Labose. Et cet homme-là, Maurice Labose, est décédé en janvier 2015. C'est un riche homme d'affaires de la région de New York, plus précisément sur Manhattan. Et voyez-vous que Maurice Labose avait beaucoup de sous en termes de millions. Et il a décidé que, bien entendu, il était pour céder quoi? Donner un héritage. Et comme il y avait beaucoup de millions, bien, il en a donné 20, si je me souviens bien, ou une 30, non, 37, 37. Il a donné 37 millions à des organismes de charité. J'ai vérifié avec Guillaume ce matin, on n'a rien reçu, je vous le dis tout de suite, là, pour ici. Donc, continuez à pourvoir, s'il vous plaît. Notre conseil d'administration nous dit qu'on n'a rien reçu, donc on peut continuer pour le projet de reconstruction. Il a donné 37 millions à des organismes de charité et il a donné 10 millions à Victoria et Marlena. Mais 10 millions qu'elles vont pouvoir toucher à l'âge de 35 ans. Ils sont jeunes. Mais comme il ne veut pas les laisser dans la dèche, il a dit, OK, vous allez pouvoir quand même aller en gruger une petite partie, mais il a mis un paquet de conditions. Premièrement, si vous vous mariez, vous devez avoir un mariage religieux. Votre conjoint doit refuser, doit se désister par rapport à l'héritage. Il n'y a rien à voir là-dedans. Si vous étudiez, vous avez un diplôme d'une étude universitaire reconnue, vous allez avoir 750 000 $. Lors du mariage, 500 000. Et comme il voulait quand même qu'il soit bien formé, qu'il y ait des bons principes, vous allez travailler. Et maintenant, la personne qui va s'occuper de léguer tout ça, elle va regarder votre déclaration d'impôt. Et selon le revenu que vous allez faire, ben lui, il va multiplier ça par 3 pour vous en donner une partie supplémentaire. Plus vous allez avoir un revenu élevé parce que vous allez avoir travaillé fort, plus ça va être payant en bout de ligne. Aïe, aïe. Hey, ça fait toute une histoire, ça, aux États-Unis. Enfin, je n'ai pas parlé de la maman qui, elle, est à nulle part là-dedans. Toute une histoire. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, quelque part, c'est que ce qui est réservé aussi, c'est pas juste de mourir et de la grâce. Mais Dieu nous dit dans sa parole aussi qu'on a un héritage. Et vous savez, on dit souvent que la valeur d'un héritage, ben, ça dépend de la personne qui lègue. Vous êtes d'accord avec moi? Maurice, il en avait de l'argent. Pas à peu près. Ben nous, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Elle nous dit que dans 1 Pierre 1, 3 et 4, il nous dit « Béni soit Dieu qui nous a régénérés. » C'est important ça. « Béni soit Dieu qui nous a régénérés. » Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Pour le chrétien, pour celui qui l'a fait ce choix-là, qui est maintenant un enfant de Dieu parce qu'il a été régénéré, la Bible nous dit qu'on a un héritage qui est réservé dans les cieux. C'est quoi cet héritage-là? Il y a beaucoup de spéculations. Et sans rentrer dans tous les détails, il y a une chose qui est certaine. Des fois, les gens disent, oui, déjà, Dieu nous dit dans sa parole qu'on a la vie éternelle, tout un héritage. On est d'accord? Pas besoin de se cryogéniser, géniser. C'est pas nécessaire. On l'a, déjà, la vie éternelle. OK? Cassez-vous pas la tête avec ça, si vous lui appartenez. Mais en plus de ça, cet héritage-là, la parole nous montre, je pense à quelque part, que tout ce qui est au bénéfice de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et les fruits que tout ça donne en bout de ligne, bien vous, comme moi, si on lui appartient, on va devenir participant de cet héritage-là. Vous savez, le Seigneur Jésus, on a l'avantage d'avoir, nous, la Bible au complet. Et souvent, on dit, on a l'Ancien puis le Nouveau, quoi? Testament. Hey! Connaissez-vous bien du monde qui ont été lire les testaments avec la personne meurt, vous autres? Bien, nous, on a le testament de Dieu, à quelque part. Le Nouveau Testament, c'est quelque chose, ça. Et si Jésus dit, comme il dit dans Jean, il dit au Père, il dit, je veux, hey, c'est un, je veux, c'est-tu clair, là? Je veux que ceux que tu m'as donnés soient auprès de moi et qu'ils voient ma gloire que j'ai. Il veut ça. C'en est une promesse dans l'héritage. Et la Bible est pleine de promesses comme ça. Par rapport à cet héritage-là qui nous est réservé dans les cieux. Et la parole va même plus loin. Dieu nous dit dans sa parole que comme on est enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et quoi? Co-héritiers de Christ. Wow! On n'aura pas juste des petites miettes. On est co-héritier de Christ. C'est pas quelque chose qui est merveilleux, ça. Puis notre héritage, bien, il est en sécurité. C'est bien écrit, hein, que rien ne peut le corrompre, le souiller, ni le flétrir. Êtes-vous d'accord? Faites attention si vous dites oui, je vous dis tout de suite. Êtes-vous d'accord que cet héritage-là, c'est mieux qu'un héritage terrestre? Quelque part, c'est de beaucoup supérieur à un héritage terrestre. Et cet héritage-là, il est protégé, il est gardé par Dieu lui-même, il nous dit le verset suivant. C'est quelque chose qui est conservé par Dieu lui-même, donc il n'y a pas de danger de le perdre. Et il n'y a pas en plus de mauvaise surprise avec Dieu. Dieu nous dit déjà qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous appartient? Dieu nous donne en plus dans sa parole un paquet de promesses. Et tout ce qu'il veut qu'on fasse, c'est y croire. Et on n'aura pas de mauvaises surprises avec Dieu. J'ai lu aussi un jour l'histoire de cet homme qui, lui, lorsqu'il est décédé, il a laissé son testament. Et là, ses héritiers étaient devant le notaire. Et ses héritiers avaient une espèce de réputation d'être très cupides. Ils aimaient ça, eux autres, l'argent. Et le notaire, lorsqu'il a commencé à lire le testament, ça commençait par « Moi, John Jones, saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. » Les héritiers, on passe pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un héritage qui m'est réservé à moi et à vous, si vous voulez bien le croire, qui nous est réservé dans les cieux. Maintenant, peut-être que vous me direz, « Ouais, mais qu'est-ce que ça fait pour moi, ça, en 2015, de savoir ça? Qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie, de savoir ça? Est-ce que ça devrait avoir un impact? » Oui. Sachant ça, ça devrait nous permettre d'avoir une vue totalement différente entre tout ce qui est un héritage qu'on pourrait appeler terrestre et tout ce que la Terre offre versus cet héritage-là qu'on a avec Dieu. Et si peut-être vous avez de la misère à bien le comprendre, il y a une prière que Paul a faite lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Et cette prière-là, je pense qu'il est important qu'on puisse la faire. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1 et 18, le verset 18, « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. » Pour qui? Qu'il réserve aux saints. Et ça, c'est une prière que Paul veut adresser. Et je pense que c'est une prière qu'on devrait adresser. Dans les chants qu'on a chantés tout à l'heure, on a chanté, entre autres, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vous souvenez-vous de ça? Je désire quoi? Je désire te voir. Mais où? Ouvre les yeux de mon cœur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que non seulement vous le sachiez des choses avec votre tête, avec ma tête, mais que ça vienne bouleverser à quelque part mon cœur. Que ça puisse vraiment me réchauffer. Et si j'ai des périodes plus difficiles ici-bas sur la terre, bien que ce soit une source de motivation pour continuer puis pour persévérer au travers de tout ce que je peux vivre. Puis le Seigneur, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'on soit pas juste des chrétiens, je dirais, de tête. C'est qu'on soit aussi des chrétiens de cœur. Et c'est important pour ça, pour nous, ça. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'adresse pas ce type de prière-là à Dieu, au travers de tout ce qu'on va vivre, toutes les épreuves qu'on va vivre, tout ce que ça va nous amener, bien entendu, c'est du découragement. C'est certain. Mais la parole de Dieu, elle est là justement pour nous aider à persévérer au travers de ça. Et j'irais même plus loin. Si on ne fait pas ça, on perd de vue la raison même de notre existence ici-bas sur la terre. Parce que le Seigneur aurait pu, lorsqu'on est venu à lui, nous prendre et nous amener tout de suite avec lui. Mais il nous a laissés ici sur la terre parce qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer comme témoin de lui. Et le Seigneur savait très bien que ce serait très difficile. Ça a été difficile pour lui, mais ça va être difficile pour vous, ça va être difficile pour moi. Mais si à ce moment-là, tout ce que je regarde autour de moi, ce n'est que ce qui m'entoure, des gens qui n'ont pas d'espérance, des gens qui ne vivent que pour le présent. Hier, on discutait justement, hier ou avant, hier, Suzanne et moi, tu écoutes une émission, puis dans toutes les émissions, on dirait que ça prend des recettes, ça prend aussi de la boisson un peu pour nous montrer comment faire des bons drinks, puis des loisirs. Il y a combien d'émissions aussi de décoration et tout ça? Je ne dis pas que c'est mauvais ces émissions-là, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, si on ne vit que pour avoir tout ça, on revient à ce que la parole de Dieu a dit. Elle dit quoi? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais la première chose qui est réservée, c'est vrai, c'est mourir, mais après quoi vient le jugement? Alors que pour nous, chrétiens, notre espérance, elle n'est pas ici. Et ce n'est pas facile. Je trouve ça pénible, je trouve ça difficile des fois dans ma propre vie. Mais on a la parole de Dieu qui est là comme un ancre à laquelle on peut s'accrocher. On peut prendre toutes ses promesses puis les faire pour nous. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Et ça devrait nous aider à persévérer dans les épreuves, dans les afflictions. Et la quatrième chose qui est réservée, après avoir pensé à mourir, à la grâce, l'héritage, il y a quelque chose de particulier que Dieu réserve aussi. Et lorsque Paul écrit ce texte-là, il l'écrit alors que le moment de son départ approche. Il est encore en prison, sans doute. Puis il écrit à des chrétiens pour les encourager. Et il est plein d'enthousiasme, je dirais, lorsqu'il écrit ça. Et il va écrire quelque chose qui nous concerne tous ici. Paul va dire, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voyez-vous, ce texte-là nous montre, comme bien d'autres, qu'il y a aussi des récompenses qui sont particulières, qui sont réservées aux chrétiens en relation avec le service qu'ils vont avoir accompli. Et l'image qui est ici, qui est donnée, c'est l'image de la couronne. Il faut se souvenir à cette époque-là, lorsque les Jeux avaient lieu, la personne qui gagnait, bien entendu, on lui remettait une couronne, mais c'était une couronne de laurier. Mais cette personne-là, c'était incroyable là, pour elle. Elle avait gagné, c'était merveilleux. Après tant d'efforts, tant de sacrifices, elle recevait cette couronne-là. Et ici, il ne s'agit pas de commencer à voir qu'est-ce que ça veut dire la couronne de justice. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. De même que pour les autres couronnes, ça peut être parce que ceux qui vont avoir vécu une vie de justice, je ne sais pas. Ça peut être bien des choses, mais ce qui compte, ce n'est pas ça qui est le but en tant que tel, c'est de comprendre que Dieu, en plus de tout ça, a quelque chose en réserve pour ceux qui veulent vraiment le servir en tant que tel. Et William MacDonald, dans son commentaire sur les disciples, dit ceci, il dit, « Nous savons que ces couronnes compenseront abondamment les larmes versées, les épreuves subies et les souffrances expérimentées ici-bas. » Est-ce que ça vous arrive de verser des larmes, d'avoir des épreuves et des souffrances? Nous savons que les couronnes compenseront abondamment. C'est quelque chose, ça. Ce qui s'en vient pour nous, qui avons accepté le Seigneur Jésus, un héritage incroyable, mais en plus de ça, des récompenses particulières. Et ça devrait nous inciter à vraiment le servir. Et non seulement ça, mais en plus, à tous ceux qui auront aimé quoi? Son avènement. Qu'est-ce que ça me fait, moi, de savoir que le Seigneur Jésus peut revenir? Pas, je devrais dire, va revenir. Il peut revenir cette semaine. Savez-vous ça? Qu'est-ce que ça me fait de savoir ça? Est-ce que j'ai hâte à son avènement? Pas juste à cause pour être fini les épreuves, ça c'est vrai, mais pour être en sa présence, pour avoir cet héritage-là, pour être débarrassé pour toujours de ma chair et du monde. Bien, du monde, comprenez? Le monde dans ce qu'il offre et tout ça. Libéré de tout ça et être avec lui. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on ait hâte à cet avènement-là. Et ça, ça devrait avoir un impact, bien entendu, dans le style de vie et ma conduite. Parce que les couronnes-là, c'est encore vraiment en lien avec le service. Et c'est important que, comme il dit ailleurs dans la parole, il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie de lui-même, se purifie comme lui-même est pur. On a une espérance, Dieu est pur, purifions-nous, nous aussi. Dans le chant qu'on a chanté, « Ouvre mes yeux, Seigneur », on a répété combien de fois, « Tu es saint, tu es saint ». Ben, je pense que oui, il faut que nos yeux soient ouverts afin qu'on puisse voir sa sainteté et que ça, peut-être, ça nous humilie suffisamment pour prendre la place qu'on doit prendre et comme on a vu au repas du Seigneur ce matin, être un serviteur les uns des autres. Et des occasions de service, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, puis on va le refaire éventuellement, vous montrer tous les différents ministères qu'on a dans l'Assemblée et qu'on va avoir dans notre nouveau bâtiment aussi. Je peux vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a personne que s'il veut servir, ne pourra pas servir. Et il n'y a personne que s'il y a déjà un service, ne pourra pas en avoir un deuxième, selon ce que Dieu vous appelle. Et la notion de service, elle est là. Oui, il y a des sacrifices à faire, j'en conviens. C'est vrai. Mais si on réalise que notre citoyenneté à nous, elle n'est pas sur la terre, on va accomplir sur la terre ce que Dieu nous demande d'accomplir. Même si c'est difficile parfois, on va savoir qu'il va pouvoir nous dire « bon et fidèle serviteur ». Donc, pour terminer, je veux revenir sur les quatre affirmations. Et là, j'ai marqué à côté « ma décision ». Je vous ai dit au début que il n'y a personne ici que ça ne concerne pas ce message-là, j'en suis convaincu. C'est impossible. Mais est-ce que vous êtes capable de vous placer devant Dieu puis de dire, oui, Seigneur, je vais mettre ma décision par rapport à ça. Oui, Seigneur, je suis rendu qu'à ce point-là. La première chose, mourir une seule fois, c'est la première affirmation de ce qui nous est réservé. Est-ce que je suis capable d'accepter ce verdict-là? Ou je suis encore en disant, non, mes bonnes œuvres vont faire la job et ainsi de suite? Non. Vous avez une décision à prendre. Vous avez vraiment une décision à prendre, c'est de vous mettre en accord avec ce que Dieu dit. C'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est d'accepter le verdict de Dieu. La deuxième chose qui est réservée, la grâce. Bien, Dieu vous offre sa propre solution et l'unique solution. Bien, pour l'accepter, vous devez mettre votre foi vraiment dans ce que le Seigneur Jésus a fait. Puis de lui céder votre vie. Si ce n'est pas fait, moi, je vous invite à le faire. Si vous êtes mal à l'aise pour savoir comment le faire, venez me voir après, on en parlera. Vous allez voir, c'est très, très simple. Et pour ceux qui ont déjà fait ces pas-là, est-ce que je suis capable de vraiment, dans ma décision, de dire, Seigneur, je veux prendre conscience de cet héritage-là parce que je réalise suffisamment que mon cœur n'a pas été assez illuminé, que mon cœur n'est pas assez tourné vers cet héritage-là, que je ne suis pas assez réchauffé par rapport à ça et que je vis d'une manière peut-être qui ne t'honore pas. Je dois me tourner vers toi et en prendre conscience de cet héritage-là. Et ma décision, Seigneur, c'est de te prier pour que tu me le montres. Et finalement, dernière chose qui est réservée, une couronne de justice. Dans ma décision, est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, maintenant je veux vivre encore plus pour toi. Je veux que tu me montres où est-ce que je peux être utile et que tu m'utilises avec mes forces et mes faiblesses, mais que tout ce que je vais faire le soit pour ta gloire à toi uniquement, parce que tu as payé si cher. Et Seigneur, pour ça, je sais que ça peut prendre des sacrifices. Dites-lui, je sais que ça peut prendre des sacrifices de délaisser des choses au profit de d'autres. mais je veux le faire, Seigneur, parce que toi, tu as en réserve des choses qui me concernent et que tu désires ardemment pour moi. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher dans les œuvres que tu as préparées pour moi à l'avance. Où est-ce que vous êtes à l'intérieur de ça? Faites cet examen-là, cette prise de conscience-là, et remettez tout ça au Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie de ce que ta parole est là. Ce Nouveau Testament, notamment, est là aussi, Seigneur, pour nous montrer toutes ces belles choses qui te concernent, toutes ces choses passées, présentes et futures. Et tout ça, Seigneur, ce qui est au centre de tout ça, c'est la personne de ton Fils. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on l'aime. On veut te dire merci pour ce sacrifice parfait accompli à la croix du calvaire. Et merci de ce que tes plus belles promesses maintenant, on peut se les approprier aussi par la foi. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse vraiment en saisir toute la portée et nous laisser porter par toi et par ton amour. Dans le nom de ton Fils. Amen.